Ce qui est sûr, c'est qu'il faut être un lefto pour ce genre de job. Il y a eu un candidat qui a été sélectionné, j'ai eu la chance que ce soit moi. C'est ce qu'on appelle un CFA Charter Holder. Si je peux comparer à un autre métier, on va dire, qui est avocat par exemple, c'est l'équivalent du barreau. Le marché ferme à 5h30. Soit on a des nouvelles et ça peut finir tard, soit c'est la fin de la journée et on n'a rien à faire et on peut rentrer dormir.
Bonjour et bienvenue dans Best Regards, le podcast qui a pour but de permettre aux jeunes et futurs diplômés d'aborder de façon sereine et éclairée le choix de leur premier emploi. Salut, c'est Laura et on se retrouve pour un nouvel épisode de Best Regards dans lequel on va parler du métier d'Equity Research Analyst. Alors, travailler en Equity Research, il faut l'avouer, c'est un terme dont on n'entend pas souvent parler. Et pour preuve, notre invité nous a confié qu'il ne connaissait même pas ce job avant ses années de master. On pense donc qu'on a trouvé l'invité idéal pour vous en parler puisqu'il saura facilement se mettre à votre place. Notre invité s'appelle Maxime et est diplômé d'un double master de l'ICHEC et de la LSM avec une majeure, comme vous pouvez vous en douter, en finance. Depuis septembre 2018, il a rejoint ING en tant qu'Equity Research Analyst. À travers ce podcast, Maxime vous expliquera son background universitaire et il vous parlera notamment de sa participation au CFA Challenge lorsqu'il était étudiant. Évidemment, comme d'habitude, on abordera son job au day-to-day chez ING et il vous expliquera par exemple qui sont ses clients. Si le secteur de la finance vous intéresse, alors je crois que ce podcast est fait pour vous et il vous plaira très certainement. Comme d'habitude, n'oubliez pas de nous suivre sur Instagram pour avoir du contenu en plus de ce podcast et je vous souhaite une super bonne écoute. Salut Maxime, j'espère que tu vas bien et merci d'être avec moi aujourd'hui sur Best Regards.
Bonjour, je suis ravi d'être ici avec vous aujourd'hui. Je trouve que c'était une vraiment très belle initiative que Best Regards et j'espère que cette vidéo va servir à beaucoup d'étudiants.
Ben, je l'espère aussi. Alors, comme on l'a dit en intro de ce podcast, tu travailles en Equity Research chez ING. Je ne suis pas certaine que tout le monde situe exactement où ce domaine se trouve dans le monde de la finance. Est-ce que tu peux nous faire une overview de ton département pour qu'on comprenne bien dans quel contexte tu travailles ?
Bien sûr, avec grand plaisir. Donc, je travaille dans la division qui s'appelle Financial Markets, donc qui regroupe à la fois les activités qui sont appelées Sales and Trading et aussi la recherche. Je pense que tout le monde situe ce qu'est un trader, mais voilà, il y a d'autres activités qui sont parallèles à ça. Donc, on est ce qu'on appelle un business de courtage. Donc, en fait, le but, c'est de lier des clients acheteurs à des clients vendeurs. Ça reste le principe de base. Donc, après, en tant qu'analyst research, ce qu'on fait, c'est de l'analyse fondamentale. Ça veut dire qu'en fait, je vais regarder une entreprise donc vraiment qui est cotée en bourse dans sa globalité. Donc, à la fois tout ce qui est stratégique, tout ce qui est état financier, tout ce qui est la qualité du management, leur stratégie en termes de développement durable. Et le but, c'est de fournir une recommandation à mes clients vis-à-vis de ça. Donc, il y en a trois qui sont possibles, buy, hold or sell. Comment je vais fournir cette recommandation, c'est en fonction des perspectives futures de l'entreprise et les risques et les opportunités qui vont arriver dans le futur. Donc voilà, c'est vraiment un métier qui est prospectif. Donc en termes d'Equity Research Analyst, il y a vraiment deux types de jobs. Il y a ce qu'on appelle le sell side, dont je fais partie. C'est des banques, généralement d'investissement, qui vont fournir des recommandations à des clients pour justement les conseiller. Donc là, le but, c'est vraiment, comme le nom l'indique, sell side, c'est de la vente. Et il y a le buy side qui est justement des clients qui, eux, vont acheter nos rapports. Et donc, quand on parle de buy side, on parle de gestionnaires de portefeuille, de fonds d'investissement qui vont justement acheter ces rapports pour avoir une idée de l'entreprise et de pourquoi ils devraient ou non investir dans cette entreprise-là.
Ok, ben c'est très clair. Maintenant qu'on a une meilleure vue de l'environnement dans lequel tu travailles, est-ce que tu peux nous expliquer concrètement ce qu'est un Equity Research Analyst et nous parler un peu plus de ton travail au jour le jour ?
Donc, premièrement, il faut savoir que c'est un métier très vaste qui regroupe vraiment différentes compétences. Donc, premièrement, et c'est vraiment le premier pilier, c'est un travail de recherche, comme le nom l'indique. Donc, on va vraiment se renseigner sur l'entreprise, sur l'industrie, sur les tendances qui dirigent vraiment cette industrie et le positionnement que cette entreprise a dans la dite industrie. Est-ce que c'est une entreprise qui est innovante, qui va lancer beaucoup de nouveaux produits ? Est-ce que c'est une entreprise qui généralement est un peu en dehors des tendances et a tendance à réagir tardivement au lieu d'être proactif? Comment on va obtenir ces informations? Premièrement, on va rencontrer le management de l'entreprise, on va discuter avec eux de leur stratégie, on va aussi lire beaucoup de rapports sur l'industrie en tant que telle et aussi le rapport annuel de l'entreprise. Le but, c'est vraiment de trouver un angle que d'autres analystes n'ont pas vu ou ont choisi de ne pas voir, on va le dire comme ça. C'est trouver un angle pour justement fournir à nos clients une valeur ajoutée. Pour donner un exemple là-dessus, je travaillais récemment sur une entreprise, une des seules entreprises cotées en bourse, dans un secteur qui traditionnellement ne l'est pas. Et le management a décidé de retirer l'entreprise de la cote boursière à un prix qui était largement supérieur au prix auquel l'action tradait. Et donc, à ce moment-là, évidemment, il faut dire à nos clients pourquoi cette offre est bonne, pourquoi je pense que c'est raisonnable au vu des conditions actuelles. Ensuite, il y a un deuxième travail qui vient, on va dire, en parallèle à celui-là, c'est la modélisation financière. On va travailler sur Excel, on va développer un modèle qui va nous servir à prévoir les performances futures de l'entreprise, à la fois en termes de croissance des ventes, de profitabilité, comment leur situation financière est aujourd'hui, est-ce que la dette est un problème. Et donc là, vraiment, le but, c'est arriver à une valeur pour l'entreprise qui est celle qu'on pense qui est la bonne. Parfois, on va finir sur un bail, par exemple, parce que je pense personnellement que cette entreprise-là est sous-évaluée par rapport au potentiel qu'elle a. Sur d'autres, on va être en sell parce qu'on pense simplement qu'aujourd'hui, le prix n'est pas raisonnable par rapport aux performances futures. Donc voilà, c'est vraiment un métier vraiment de modélisation. Et le troisième, qui est personnellement mon côté favori, c'est le côté vraiment commercial. Donc au travers de rapports écrits, et une fois que c'est publié, avec un contact direct avec les clients, on va recommander à ces clients-là, la recommandation qui a été fournie. Il y a vraiment deux types de rapports, je vais lire ça comme ça. Premièrement, il y a ce qu'on appelle les rapports d'initiation, ou vraiment les rapports de contenu, où le but est vraiment d'éduquer nos clients sur l'entreprise, sur l'environnement. Et ensuite, il y a des notes un peu moins, on va dire, formelles, où on va, par exemple, le matin, communiquer sur les résultats, sur un communiqué de presse que la société a publié. C'est des notes du matin, c'est un peu plus concis. Et le but, là, vraiment, est d'informer directement nos clients en temps réel des nouvelles informations sur l'entreprise. Si vraiment je regarde une journée type, c'est très difficile à dire parce que, comme je le disais, ça dépend vraiment de chaque matin. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut être un lève-tôt pour ce genre de job. En général, tous les jours, je commence aux environs de 7 h du matin pour lire la presse, pour me mettre à jour sur les différentes tendances, parce qu'il y a certains marchés qui sont ouverts la nuit, d'autres qui sont ouverts l'après-midi, et donc c'est le moment où il faut vraiment, de 7 à 9 h, je dirais que c'est vraiment le pic de la journée en tant que charge de travail. Et donc là, il y a vraiment deux solutions possibles. Soit on va avoir une nouvelle sur une entreprise, et donc on va communiquer là-dessus. On a un call le matin avec les sales. On va appeler nos clients pour dire, cette news est importante parce que ça, ça et ça. Et on va recommander nos clients en pensant que, aujourd'hui, l'action va grimper de 5% parce que cette information est vraiment importante. Ou alors, il n'y a pas d'information du tout. Et là, ça reste plus du travail de recherche, comme je disais, où on va continuer à travailler sur un rapport, sur nos idées. Je vais reprendre l'exemple de là tantôt. J'ai une entreprise qui va se faire racheter. Le matin, on a un communiqué de presse qui annonce la nouvelle. Mon travail, c'est dire à mes clients qui sont ce qu'on appelle des fonds institutionnels ou des investisseurs institutionnels, donc tout ce qui est private banking, tout ce qui est fonds d'investissement, dire aujourd'hui, l'action va monter parce qu'il y a eu cette nouvelle. Parce que il faut savoir que en tant que sell side, on couvre en moyenne 10 entreprises. Les clients buy side, il y a un environnement qui est beaucoup plus grand et donc ils n'ont pas le temps d'éplucher chaque nouvelle en détail. Et donc mon job, c'est vraiment de leur expliquer pourquoi cette nouvelle-là est importante. En termes de fin de journée, pour ceux que ça intéresse, le marché ferme à 5 h 30, donc je suis toujours là à ce moment-là. Et là, de nouveau, c'est un peu la même routine. Soit on a des nouvelles et ça peut finir tard, on va le dire transparent. Soit simplement, c'est la fin de la journée et on n'a rien à faire et on peut rentrer dormir.
Ah ben, j'étais pas du tout au courant de ces horaires de lève-tôt. C'est vrai que je m'en étais pas du tout rendu compte, mais en tout cas, on sent que c'est vraiment un job de recherche, d'analyste, vraiment de comprendre les marchés, mais que finalement, c'est assez dynamique, comme la bourse est quelque chose d'assez qui peut varier de jour en jour. Mais en tout cas, c'est super chouette comme travail. Du coup, une question qu'on se pose, c'est comment est-ce que tu as connu cette division d'Equity Research? Toi, tu travailles chez ING, mais est-ce que cette division, elle existe dans d'autres banques en Belgique?
Très bonne question, effectivement. Donc, si je regarde un peu mon parcours personnel, avant mes années master, je connaissais pas vraiment le métier, pour être transparent. premièrement, un de mes professeurs qui m'a vraiment initié à ce plaisir de la recherche. Et ensuite, j'ai participé au CFA Institute Research Challenge, qui est vraiment une compétition internationale qui vise à justement produire ce genre de rapport de recherche. Et donc, j'ai eu la chance d'y participer en tant qu'étudiant. Et ça m'a vraiment ouvert des portes, à la fois personnellement, parce que je ne me dirigeais pas vers ce genre de carrière au départ, et ensuite vraiment d'un point de vue professionnel, parce que voilà, j'ai noué beaucoup de contacts à ce moment-là. Donc, on a eu la chance, nous, en tant que participants, d'atteindre la finale IMIE. On était avec beaucoup d'étudiants d'univers totalement différents, et donc c'était vraiment une vision intéressante. Étant donné la taille de la Belgique en termes d'autres banques qui font ce qu'on fait, généralement ce qu'on fait en Belgique, c'est qu'on est lié à ce qu'on appelle le Benelux. Donc on travaille à la fois sur les entreprises en Belgique et aux Pays-Bas, au Luxembourg aussi, mais il y en a beaucoup moins. Donc de nouveau, là-dessus, il y a vraiment deux types d'acteurs. Il y a ce qu'on appelle les brokers locaux, comme ING pour lequel je travaille, KBC, De Groof Petercam, ABN AMRO sur le Benelux. Et de l'autre, il y a vraiment les acteurs qu'on appelle globaux. Donc là, on parle de JP Morgan, Goldman Sachs, Citi. Et là, eux, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont vraiment sélectionner les entreprises de grande taille ou qui ont un potentiel important pour eux. Et ils vont justement se limiter à ces entreprises, alors que voilà, un acteur local va vraiment être plus large sur le scope qui court.
C'est ça, ok, oui, ok, alors c'est très clair. Je pense que ça pourrait intéresser nos auditeurs de savoir où est-ce qu'ils pourraient retrouver ces divisions dans les différentes banques, comme tu dis, actives sur le Benelux. Maintenant que tu nous as expliqué ton job au day-to-day, peux-tu nous expliquer comment tu es rentré chez ING, ayant participé au CFA Challenge dont tu viens de nous parler? J'imagine que ton background universitaire a dû un peu jouer.
Comme beaucoup de gens, j'ai postulé via LinkedIn et c'était un process plutôt classique. Donc, comment ça s'est passé? Premièrement, j'ai envoyé mon CV. Il y a ce qu'on appelle un screening de CV pour voir si mes compétences correspondaient au poste recherché. Ensuite, j'ai eu un premier call technique où vraiment on se focalisait sur des questions financières, des questions stratégiques, voir comment je pouvais développer un cas d'investissement, comment je pouvais m'exprimer oralement. Et ensuite, j'ai vraiment eu différentes interviews avec le manager vraiment de ma division, ce qu'on appelle un MD en finance. J'ai eu différentes interviews où, là, de nouveau, le but était de voir comment j'interagissais à la fois avec l'équipe et à la fois comment je me comportais en société, on va dire ça comme ça. Et donc, pour être tout à fait transparent, c'est un processus ultra compétitif. Donc, si on regarde un peu l'equity research en tant que tel, c'est un métier qui est très fermé. On est très peu en Belgique. Je pense qu'en tout, on doit bien être une trentaine en Belgique. Donc, si on regarde sa population, ça reste une minorité. Dans mon équipe, qui est séparé entre Bruxelles et Amsterdam, on est une dizaine. Il y a eu un candidat qui a été sélectionné, j'ai eu la chance que ce soit moi. Ça reste un métier qui est très compétitif. Il faut savoir de nouveau, généralement, qu'entre les brokers locaux et les brokers globaux, il y a vraiment une différence là-dessus. C'est que sur un broker local, on a tout de suite beaucoup plus de responsabilités, alors que sur un broker global, il y a beaucoup plus de hiérarchie. Et donc, on va commencer en tant que junior. Et on va juste faire de l'update financière. On va s'occuper du modèle et c'est plus ou moins tout. Alors que dans un broker local, justement, on a directement plus d'exposition sur le côté commercial. Et c'est ce qui me plaisait sur l'OFDNG. Pour rejoindre mon parcours universitaire, trois choses importantes à souligner. Premièrement, j'ai été membre et président de ma junior entreprise à l'université. Donc, ICHEC Junior Consult pour la cité, vu que je viens de l'ICHEC. Ça m'a appris deux choses réellement importantes. Premièrement, c'est une approche commerciale. J'ai eu beaucoup de contacts avec différents clients, avec différents CEO d'entreprises. Et j'avais déjà une certaine expérience sur comment me comporter avec ces gens-là, ce que je dois dire, ce que je ne dois pas dire. Et ensuite, sur justement la gestion de différentes parties prenantes, j'étais en contact avec le doyen de mon université. De nouveau, j'étais en contact avec différentes entreprises pour organiser une job fair. On organise un business game. Ça m'a vraiment appris justement ce comportement, on va dire, à la fois commercial et à la fois business development, qui est très important dans mon job. Deuxième chose, comme tu le mentionnais, c'est ma participation au CFA Challenge. Premièrement, ça m'a permis de démontrer que j'avais déjà une certaine expérience là-dedans, malgré le fait que je sortais juste de l'université. Je savais en quoi le job comportait. Je savais parler, on va dire, oralement, parce que j'avais des vidéos pour prouver que devant une audience, je sais parler facilement. Et ensuite, troisième point que je trouve qui est aussi très important, c'est ce qu'on appelle le CFA tout court, donc c'est ce qu'on appelle un CFA Charter Holder. C'est un parcours en trois examens. directement, quand je suis arrivé à mon entretien, c'était une de mes premières questions. ING était prêt à me soutenir dans cette démarche. Le but vraiment du CFA, en fait, c'est de fournir, on va dire, une équivalence. Donc, peu importe l'université d'où on vient, le parcours qu'on a fait, à partir du moment où on a obtenu ce CFA, on est considéré comme un professionnel de la finance. C'est vraiment le... Si je peux comparer à un autre métier, on va dire, qui est avocat, par exemple, c'est l'équivalent du barreau. À partir du moment où on a ce CFA, on est vraiment considéré comme, je ne vais pas dire un réel professionnel parce que certains ne l'ont pas, mais c'est vraiment quelque chose qui pour moi est important. Et directement, quand je suis arrivé, mon but était de l'obtenir. J'étais déjà candidat au niveau 1 avant mon entretien et voilà, je suis toujours dans le programme aujourd'hui.
Mais c'est ça, mais je pense que c'est intéressant que tu fasses un point sur le CFA. C'est quelque chose dont les étudiants en finance, ils s'y intéressent, ils savent pas s'il faut être candidat, s'il faut déjà avoir un niveau avant de postuler quelque part. Donc je pense que c'est cool que tu aies fait un point. Alors enfin, est-ce que tu peux nous dire si ton métier donne une éventuelle ouverture vers un métier en PI ou VC? On sait que souvent ces métiers sont pas toujours accessibles en first job, donc ça peut être intéressant que tu nous donnes une perspective d'évolution de carrière pour nos auditeurs, justement, qui seraient passionnés par le monde du PI ou du M&A.
Oui, donc, première chose à savoir, c'est que le skill set entre le private equity et l'equity research est relativement différent. C'est pas le métier que je choisirais pour faire une transition equity research to private equity directement. Par exemple, un métier investment banking pur est beaucoup plus conseillé si on vraiment transitionnait sur le private equity après. Généralement, ce qui se passe en tant qu'analyste sell-side, c'est qu'on commence pendant quelques années et ensuite, on a vraiment trois choix de carrière possibles si on ne veut pas continuer là-dedans, bien évidemment. Et la première, et qui est la plus répandue, c'est qu'on va shifter sur ce qu'on appelle le buy-side. À la place de fournir des recommandations, ben, on va prendre les recommandations et on va investir nous-mêmes. Et là-dessus, ben, le skill set est relativement similaire. C'est découvrir les entreprises, rencontrer le management et vraiment investir dans des entreprises auxquelles on croit au potentiel. Donc vraiment, voilà. La seule vraiment différence, c'est que moi, je fournis une recommandation, eux vont investir dedans de l'argent. Ensuite, il y a beaucoup de gens qui shiftent sur ce qu'on appelle les corporates. Si je couvre une entreprise pendant plusieurs années, j'ai développé de bons liens avec le management, avec différents membres de l'entreprise. C'est un secteur qui m'intéresse personnellement. Bah alors potentiellement, à la place de travailler, moi, dans le service ING, par exemple, brokerage, je vais aller chez eux dans un département stratégique, dans un département financier, parce que simplement j'ai une très bonne connaissance de l'environnement et je peux fournir des recommandations en interne à la place de le faire en externe. Ça, c'est vraiment le deuxième point. Et ensuite, il y a le troisième. Tu mentionnais le M&A, c'est une des possibilités. Donc, c'est ce qu'on appelle le département chez nous Corporate Finance et Equity Capital Markets. Là-dessus, ce qu'on peut faire, ben, le champ est vaste. Mais de nouveau, vu qu'on a déjà une certaine expérience du marché, de comment le marché va réagir à certaines nouvelles, on peut justement conseiller les entreprises en tant que telles, pourquoi ils devraient acquérir cette entreprise-là, pourquoi ils ne devraient pas parce que ce serait mal perçu. Et ensuite, tout ce qui est ce qu'on appelle right issue, private placement, où justement, on va conseiller l'entreprise. Aujourd'hui, l'entreprise a un projet, ils n'ont pas les moyens de le faire aujourd'hui, ben, ils vont émettre de nouvelles actions pour lever des fonds, pour justement financer cette croissance. Voilà, ça c'est vraiment les trois jobs de base. Je ne dis pas que c'est impossible de transiter de l'equity research au private equity, et c'est plus difficile que dans d'autres jobs.
C'est ça, mais je pense qu'il y a quand même beaucoup d'autres options qui sont tout aussi intéressantes, donc super, merci pour ce point. Alors, on conclut toujours nos épisodes avec un conseil pour nos auditeurs, quel serait le tien ?
Celui-là, il est facile. Prenez le temps d'investir en vous-même, parce que c'est le meilleur investissement que vous pouvez faire. Donc, c'est quelque chose auquel je crois vraiment. N'hésitez pas à faire des études supplémentaires si vous pensez que c'est possible, des certifications si vous pensez que c'est ce qui vous correspond. Et voilà, j'encourage vraiment le développement personnel.
Super, ben c'est bien noté. Merci beaucoup, Maxime. À bientôt.
Avec grand plaisir. Et j'espère que cet épisode vous a plu. Et je vous souhaite une bonne journée.
Salut. Merci d'être resté avec nous jusqu'ici. J'espère que l'épisode vous a plu. On a abordé un sujet dont on parle pas souvent et j'espère vraiment que vous aurez appris quelque chose. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à partager notre contenu auprès de vos potes que ça pourrait intéresser. C'est vraiment ce qui nous permet de nous faire connaître. N'hésitez pas non plus à nous suivre sur les réseaux sociaux pour être tenu au courant des prochaines capsules. On se retrouve la semaine prochaine pour un épisode qui parlera de Teach for Belgium et je vous promets, ce sera super chouette à écouter aussi. Salut !